Astronomie, astrophysique, cosmologie, astroparticules. Ça se passe là-haut. Salut à toutes et à tous. Vous en avez certainement entendu parler cette semaine, vu le buzz médiatique que produit toujours la détection d'impulsions radio jamais vues auparavant en provenance de notre galaxie, avec son lot de qualificatifs pour le moins sensationnalistes. Ouais, on va donc expliquer de quoi il s'agit. Et non, ce ne sont pas des appels désespérés des amis de Jean-Pierre à grands yeux noirs et grosse tête chauve. L'étude est parue dans Nature Astronomy. Alors depuis quelques années, plusieurs observations ont révélé des bouffées rares et jusqu'alors inconnues d'ondes radio d'une durée allant de quelques millisecondes à quelques minutes. On ne parle pas ici des FRB qui sont autre chose. Et ici avec une périodicité de quelques minutes à une heure. Ces signaux radio transitoires proviennent de sources qui sont situées dans la Voie lactée. Typique de processus d'émission cohérente dans un plasma astrophysique. On suppose généralement qu'ils sont produits dans les environnements extrêmes et hautement magnétisés entourant les naines blanches ou les étoiles à neutrons. Mais l'origine astrophysique de ces signaux reste controversée et plusieurs modèles de progéniteurs pourraient être nécessaires pour expliquer leurs diverses propriétés. Iris de Ruyter et ses collaborateurs ont donc découvert l'origine d'une de ces sources radio transitoires, qui est nommée ILT J1101+5521. Ces impulsions ont une durée d'environ une minute et nous arrivent avec une périodicité de 125,5 minutes, à peu près 2 heures. ILT J1101+5521 a été découvert lors d'une recherche de transitoires sur le ciel entier du réseau à basse fréquence LOFAR, dans le relevé LOFAR 2 Meter Sky Survey, qu'on appelle LOTS, afin de détecter des transitoires radio sur des échelles de temps allant de quelques secondes à quelques heures. Une seule impulsion radio brillante de ILT J1101+5521 avait été détectée par LOFAR dans les données du 8 février 2015, à l'aide d'images instantanées de 8 secondes. Eh bien, De Ruyter et ses collaborateurs ont détecté 6 impulsions supplémentaires dans d'autres données d'archives de LOFAR. Et ça leur a permis de mieux localiser la source de cette émission radio, à une ascension droite de 11h1:50,5 secondes et une déclinaison de 55°21:19,6 secondes. Je vous passe les incertitudes. Et donc, ce qui donne en coordonnées galactiques 150,45° et 55,52°. On a donc désormais 7 impulsions radio d'une durée comprise entre 30 secondes et 90 secondes, avec des densités de flux maximales allant de 41, plus ou moins 6, à 256, plus ou moins 10, millijansky, dans 5 observations de 8 heures couvrant la période entre 2015 et 2020. Une nouvelle campagne de surveillance de LOFAR de 16 heures, qui a été menée fin 2023, n'a en revanche donné lieu à aucune détection supplémentaire, ce qui est une information intéressante aussi. De Ruyter et ses collaborateurs utilisent les temps d'arrivée des impulsions pour déterminer une solution de synchronisation connectés en phase, et ils trouvent une période de 125,5278, plus ou moins 0,00002 minutes. De plus, ils obtiennent également une limite supérieure sur la dérivée de la période, qui fait 1,711 × 10⁻¹⁰ secondes par seconde. Les impulsions ont un cycle d'activité de 2% et l'intermittence des impulsions combinée aux non-détections dans les observations de 2023 indique que la source est intrinsèquement de nature très variable. Les radioastronomes détectent en effet une impulsion dans 7 des 26 périodes observées. Il est notable que les impulsions sont visibles sur toute la gamme observée de fréquences radio, entre 120 et 168 MHz. Pour l'impulsion la plus brillante de l'échantillon, l'indice spectral de l'impulsion est extraordinairement raide et les chercheurs déterminent l'indice spectral, qu'on appelle alpha, qui vaut -4,1, où on a une densité de flux S nu qui varie comme nu puissance alpha. Alors de plus, pour l'impulsion la plus brillante de l'échantillon, la fraction de polarisation linéaire est de 51 plus ou moins 6%, pour une mesure de rotation de Faraday de 4,72 radians par mètre carré. Aucune émission polarisée circulairement n'est détectée dans les impulsions, avec une limite supérieure de 1,6% de la fraction de polarisation circulaire pour l'impulsion la plus brillante. Alors les archives de l'expérience V-Lite du Very Large Array, un autre radiotélescope, ont également été consultées par les chercheurs pour les impulsions de ILT J1-01 plus 5521, maintenant qu'on connaissait bien sa localisation. Mais aucune impulsion supplémentaire n'y a été trouvée. En outre, des observations simultanées du télescope à rayon X Swift ont été réalisées pendant les observations de LOFAR en 2023, ce qui a permis d'établir une limite supérieure de la luminosité en rayon X. Et c'est une recherche dans les ensembles de données archivées de multilongueurs d'onde sur les coordonnées de ILT J1-01 plus 5521 qui a donné lieu à la découverte d'une correspondance avec une étoile cataloguée dans le Sloan Digital Sky Survey et qui est nommée J1-01 plus 5521, elle aussi. Oui, puisqu'elle est au même endroit, forcément, dont la position dans le catalogue Gaia DR3 est d'ailleurs décalée de 0,44 secondes d'arc par rapport à ILT J1-01 plus 5521, mais dans l'incertitude astrométrique de la position radio dérivée de ILT J1-01 plus 5521, avec une erreur de plus ou moins 1,9 secondes et 0,39 secondes. Alors, selon les chercheurs, la probabilité que la source optique, donc l'étoile, s'aligne avec ILT J1-01 plus 5521 par hasard est extrêmement faible, environ une chance sur 10 000, en raison de la faible densité stellaire aux hautes latitudes galactiques où elle se trouve. La distance géométrique de cette étoile, d'après les données de Gaia, est de 504 parsec. Je vous passe les incertitudes. De Ruyter et son équipe montrent que ILT J1-01 plus 5521 est un système binaire, avec une naine blanche et une naine rouge, dont la période orbitale correspond à celle des impulsions radio qui sont observées lorsque les deux étoiles sont en conjonction. Le suivi spectroscopique a en effet déterminé que l'étoile a une variation substantielle de la vitesse radiale d'environ 200 km par seconde. Une sinusoïde simple décrit bien les données, indiquant une orbite binaire proche de la circulaire. Les chercheurs ont ensuite ajusté deux sinusoïdes aux données, l'une où tous les paramètres d'ajustement sont non liés, et l'autre où ils ont fixé la période à la période de 125,5 minutes des impulsions radio. Et il n'y a aucune différence significative dans la qualité de l'ajustement entre les deux ajustements, ce qui montre clairement que la période des impulsions radio est liée à la période binaire. En supposant une période orbitale stable égale à la période des impulsions radio, De Ruyter et collaborateurs constatent que ces impulsions sont toutes émises lorsque la naine rouge est en conjonction supérieure par rapport à la naine blanche. Autrement dit, lorsque la naine rouge est vue derrière et alignée avec la naine blanche du point de vue d'un observateur terrestre. Alors, compte tenu de la faible probabilité d'alignement aléatoire, de la concordance entre la dispersion des impulsions radio et la distance à l'étoile, et de la périodicité des impulsions radio égale à la période orbitale de cette étoile, De Ruyter et collaborateurs peuvent conclure avec une quasi-certitude que ILT J1-01 plus 55-21 est un système binaire dont l'une des composantes est une étoile naine de type M. Ensuite, en utilisant la mesure de l'amplitude de la vitesse radiale, les chercheurs appliquent la fonction de masse binaire pour contraindre la masse de la naine blanche en fonction de l'inclinaison orbitale. La fonction de masse binaire dépend de la masse de la naine blanche, de la masse de la naine M, la naine rouge, de l'angle I de l'inclinaison, de l'orbite binaire, ainsi que de la période orbitale et de la vitesse radiale observée de la naine rouge. Eh bien, De Ruyter et ses collègues supposent une masse de 0,188 masse solaire pour la naine rouge, parce que c'est le résultat de l'ajustement photométrique à large bande, ainsi qu'une période de 125,5 minutes, puisqu'on l'a vu, c'était la période observée, et une amplitude de vitesse radiale de 98 km par seconde. Ils trouvent que pour une compagne naine blanche plus massive que 0,2 masse solaire, l'inclinaison du système doit être inférieure à 40 degrés. Or, dans l'échantillon connu de binaires naine blanche, naine rouge en interaction, la naine blanche a généralement une masse supérieure à 0,6 masse solaire. Et les données étendues montrent que pour des masses de naine blanche supérieures à 0,25 masse solaire, le point d'équipotentiel gravitationnel entre les deux étoiles, c'est-à-dire le rayon du lobe de Roche, eh bien, serait égal au rayon stellaire de la naine rouge. Ok, donc on a donc un système binaire naine blanche, naine rouge très serré, avec des étoiles probablement en interaction. Mais comment ce système peut-il produire les émissions radio transitoires qui sont observées? Alors tout d'abord, De Ruyter et ses co-auteurs montrent que les impulsions radio observées de ILT J1-01 plus 55-21 sont incompatibles avec l'émission radio stellaire à basse fréquence qui est typique des naines rouges en termes de luminosité, ça de 5 ordres de grandeur, donc c'est considérable, et aussi en termes de propriétés polarimétriques. Par conséquent, il conclut que l'émission radio provient de la naine blanche, ou bien de l'interaction entre la naine blanche et la naine rouge. Alors ensuite, il montre que la fraction de polarisation linéaire est élevée, ce qui indique donc la présence de champs magnétiques fortement ordonnés. Et ça, c'est souvent trouvé autour des naines blanches. Il faut se rappeler que les binaires naine blanche, naine rouge, avec une naine blanche hautement magnétique, sont les seuls systèmes avec les étoiles à neutrons dont l'émission d'impulsions radio cohérentes est confirmée. AR Scorpii et J1912-44-10 sont des exemples de binaires à naine blanche qui présentent une émission radio périodique, avec des périodes d'impulsion de l'ordre de quelques minutes et des périodes orbitales d'environ 4 heures. Alors, De Ruyter et son équipe ont retrouvé un modèle évolutif prometteur pour les naines blanches magnétiques dans les étoiles binaires, qui avait été publié en 2021 par Schreiber et collaborateurs. Ce modèle repose sur l'apparition tardive d'un champ magnétique élevé, potentiellement dû à une dynamo entraînée par la cristallisation et la rotation de la naine blanche. Un fort champ magnétique de naine blanche peut en effet se connecter au champ de la naine rouge et fournir un couple de synchronisation sur le spin de la naine blanche. On pense notamment que AR Scorpii et J1912-44-10 sont au premier stade du processus de synchronisation. La période orbitale plus courte d'ILT J1-01 plus 55-21, comparée à AR Sco et J1912, indique que le système binaire serait au stade dit polaire, où le processus de synchronisation est terminé et la naine rouge remplit à nouveau son lobe de roche. Cela implique que pour ILT J1101 plus 5521, la période de spin de la naine blanche s'est synchronisée avec la période orbitale. Pour les systèmes polaires de ce type, l'intensité du champ magnétique de la naine blanche doit augmenter à plus de 10 mégagausses, selon une étude théorique de 2008 par Ramsey et collaborateurs. La formation d'un disque d'accrétion dans ces cas est supprimée, mais l'accrétion se produit directement sur le pôle magnétique de la naine blanche. Les polaires, comme on les appelle donc, entrent dans des états avec peu ou pas d'accrétion, et pendant ces périodes, le système apparaît comme un système naine blanche plus naine M pratiquement détaché. Et il se trouve qu'aucune accrétion soutenue ne semble se produire pour ILT J1101 plus 5521, d'après l'absence d'émission de rayons X. Le flux typique de rayons X dans les phases d'accrétion brillante des polaires est d'environ 5·10⁻⁷ ergs par centimètre carré et par seconde, comparé à la limite supérieure en rayons X de Swift pour ILT J1101 plus 5521, qui est de 5·10⁻¹⁴ ergs par centimètre carré par seconde. De plus, la présence d'accrétion perturberait probablement la création d'une émission radio cohérente, similaire au système de pulsars millisecondes à transition d'état. Une période de 125 minutes avec un donneur de type spectral M, une naine rouge, comme observé pour ILT J1101 plus 5521, se situe donc bien dans la population des polaires. Les polaires typiques ont une masse de naine blanche d'environ 0,6 masse solaire et des températures effectives de naine blanche inférieures à 11 000 Kelvin. Mais la température de la naine blanche dans ILT J1101 plus 5521 est probablement plus basse, comprise entre 4 700 Kelvin et 7 500 Kelvin, ce qui indique donc un système plus évolué par rapport à l'échantillon connu. Alors ok, le mécanisme exact qui produit l'émission radio reste inconnu. Mais étant donné la configuration polaire, il semble plus naturel que nous observions une émission radio pulsée due à des effets de faisceau. Ici, on observe le système dans une certaine géométrie, une conjonction supérieure lorsque la naine rouge est vue alignée avec et se trouve derrière la naine blanche. Et ça, une fois par cycle orbital, en regardant effectivement vers le bas un faisceau d'émission radio. Dans ce cas, la nature hautement intermittente d'ILT J1101 plus 5521, on rappelle que des impulsions sont observées sur un quart des orbites observées, pourrait s'expliquer, selon les chercheurs, par une forte variation de la luminosité de l'émission radio cohérente, similaire à ce qui a été proposé pour les transitoires radio en rotation. L'indice spectral abrupt des impulsions radio les plus brillantes indique que le spectre pourrait être similaire à la coupure drastique qui est observée pour l'émission instable de Maser cyclotron électronique, qu'on nomme avec l'acronyme ECMI, émission instable de Maser cyclotron électronique. Ça ne s'invente pas. Et l'émission ECMI pourrait donc expliquer l'émission radio d'ILT J1101 plus 5521, puisque le couplage magnétique entre la naine rouge et la naine blanche est confirmé pour les systèmes polaires. De faibles éruptions radio polarisées circulairement d'une minute ont notamment été observées dans les systèmes polaires à haute fréquence. On pense que ces éruptions se produisent en raison de l'émission ECMI qui est causée par la naine rouge se déplaçant à travers la magnétosphère de la naine blanche. Mais l'émission radio d'ILT J1101 plus 5521 est tout de même clairement distincte, car elle est observée à des fréquences beaucoup plus basses, et les impulsions sont beaucoup plus brillantes et fortement polarisées, linéairement. Les auteurs indiquent que certaines de ces différences pourraient être néanmoins expliquées en invoquant une version relativiste de l'émission ECMI. Alors bien que le bilan énergétique soit tel que la luminosité radio observée pourrait provenir de la rotation de la naine blanche, De Ruyter et ses collaborateurs soutiennent que le scénario le plus probable est que l'émission radio provienne de l'interaction de la naine rouge avec le champ magnétique de la naine blanche. Alternativement, l'émission radio pourrait aussi être déclenchée par la reconfiguration du champ magnétique ou, dans un scénario plus exotique, selon eux, provenir de l'accrétion de matière sur le pôle magnétique de la naine blanche à des taux d'accrétion très faibles. Et bizarrement, les chercheurs n'évoquent pas une origine technologique de petits gris à grands yeux noirs et grosses têtes chauves. Alors, aucune des sources radio transitoires à longue période détectées précédemment n'a de compagne binaire connue. Et la périodicité des impulsions est supposée provenir de la période de spin d'une étoile à neutrons ou d'une naine blanche. ILT J1 01 + 5521 est ainsi la première source radio à longue période dont l'identité binaire est confirmée et la seule dont la compagne est une naine blanche confirmée elle aussi. De plus, il a été démontré dans cet article que les impulsions radio de ILT J1 01 + 5521 se produisent à la période orbitale et au moment de la conjonction stellaire. ILT J1 01 + 5521 révèle qu'il existe probablement plusieurs progéniteurs capables de produire des impulsions radio à longue période. Alors, ce qui est sympa, c'est la latitude galactique élevée de ILT J1 01 + 5521. Elle va faciliter son étude par des observations à multilongueur d'onde. Et ça permettra d'étudier plus en détail la géométrie exacte de ce système binaire, les propriétés des deux étoiles et, in fine, les mécanismes d'émission détaillés qui sont en jeu. L'article de Iris de Ruyter et ses collaborateurs est paru dans Nature Astronomy le 12 mars 2025. Il porte le titre « Des pulses radio sporadiques à partir d'une binaire à naine blanche à la période orbitale ». Allez, d'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel et restez bien les pieds sur terre à la recherche des petits gris à grands yeux noirs et grosses têtes chauves.